Plusieurs des personnes de l'Église ont participé aux différentes soirées et on a vraiment été bénis de voir comment que le Seigneur a préparé cette semaine et le thème choisi. Je suis toujours émerveillé de voir comment que le Seigneur agit. Autant dans ce qu'on a commencé à voir durant le début de cette année, autant dans le thème que justement l'équipe nationale a perçu pour l'Église méthodiste libre au Canada. Si vous vous rappelez, c'est 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 qui dit: Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le thème, c'était justement libérer la sainte liberté, c'est-à-dire de relâcher la sainte liberté, de laisser la place totale à cette sainte liberté d'une façon forte et complète. Et durant plusieurs soirées, on a eu différents orateurs qui sont venus nous partager qu'est-ce que ça veut dire cette sainte liberté. Et j'aimerais simplement reprendre un petit peu quelques thèmes pour nous encourager à continuer de chercher cette sainte liberté, de continuer de participer à ce mouvement que nous sommes en train de vivre aussi à travers l'Église méthodiste, à travers le Canada. Vous savez, je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau, de neuf, et on croit qu'on a besoin de continuer de prier, d'intercéder pour voir vraiment Dieu agir aussi à travers l'Église méthodiste, et pas juste l'Église méthodiste, mais à travers aussi toutes les églises au Canada. J'aimerais juste vous lire l'introduction par le pasteur Jervis Joe Cotto, qui est donc le responsable national de la santé de l'Église d'implantation. Voici ce qu'il écrit justement dans le petit fascicule, la brochure qui accompagnait ce temps de prière. Il dit: Allumons les informations et nous constatons déjà de nombreuses réalités troublantes dans notre culture actuelle. Pourtant, depuis le début du mouvement méthodiste, les chrétiens wesleyens sont appelés à répandre la sainteté biblique. Comme l'a si bien dit B.T. Roberts, donc c'est celui qui a développé l'Église méthodiste libre aux États-Unis et qui est arrivé au Canada après, l'Église méthodiste libre existe pour répandre la sainteté biblique dans tout le pays. Et si l'Esprit nous invitait aujourd'hui à une expression renouvelée de cette sainteté du cœur, non pas au légalisme ni à un idéal inaccessible, mais à une vie rendue possible par le Christ et dynamisée par l'Esprit, qui transforme nos cœurs et rayonne dans nos communautés et notre mission. Enracinés dans notre héritage wesleyen, cette semaine nous ramène à la conviction fondamentale du méthodisme. La grâce de Dieu non seulement pardonne le péché, mais nous libère de son emprise, nous façonnant dans l'amour saint par l'œuvre sanctifiante de l'Esprit. À une époque sécularisée, marquée par une confiance ébranlée dans le témoignage chrétien et une quête d'une liberté superficielle, nous croyons que Dieu appelle son Église à incarner une liberté plus profonde, façonnée par une authentique soumission au Christ, la prière, l'adoration et des vies empreintes d'amour. Que Dieu nous donne la force de déployer cette sainte liberté dans nos communautés dès 2026 et au-delà. Donc, une introduction pour nous rappeler que l'héritage que nous avons reçu des fondateurs, on a besoin de continuer de le faire grandir, on a continuer peut-être de réapprendre qu'est-ce que ça veut dire. Hein? On dit toujours l'Église méthodiste libre, beaucoup de personnes ne savent pas forcément qu'est-ce que ça veut dire libre, mais un des aspects de l'Église méthodiste libre, c'est justement être libéré, être capable de vivre libre dans l'Esprit de Dieu. Un soir, un des orateurs, c'était un professeur dans une école biblique à Toronto, qui nous a parlé un peu sur l'histoire de John Wesley. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Donc, John Wesley a grandi dans une famille chrétienne, même son père était prêtre anglican, et ils avaient beaucoup d'enfants, et John Wesley était un des derniers. Et comme peut-être ça se faisait beaucoup à cette époque-là, il pensait d'être capable de suivre les mêmes rôles que son père pour devenir pasteur. Donc, il a fait toutes les études. Et avec son frère et d'autres, quand ils étaient à l'université, ils avaient développé le Club des Saints. C'est-à-dire, ils voulaient vraiment être vraiment profondément enracinés dans le Christ en faisant beaucoup d'œuvres pour essayer justement d'être plus saints. Donc, il faisait beaucoup de temps de prière, il faisait des temps de jeûne, il prenait régulièrement la Sainte Cène, il se conformait à la parole de Dieu, toutes les distractions, même en tant que jeune, il les mettait de côté. Et pendant des années, ils ont continué à vraiment comme vouloir chercher la sainteté dans le Seigneur. Mais John n'a jamais été satisfait. Il sentait qu'il y avait quelque chose dans son cœur qui n'était pas là. Ensuite, il était même aussi pasteur d'une paroisse anglicane, mais même là, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Par la suite, il a pu aller donc aux États-Unis. Normalement, c'était pour prêcher les autochtones, mais la situation a été un peu différente. Et il est revenu 2 ans plus tard, désabusé de son séjour là-bas, et toujours en quête de d'une profonde spiritualité qu'il n'arrivait pas à saisir, malgré tous ses efforts, malgré toute cette endurance à chercher vraiment Dieu de tout son cœur. Mais Dieu était en train de faire un travail en lui. Et dans ce temps qu'il était aux États-Unis, pendant qu'il était en route là-bas, il a rencontré justement un groupe qu'on appelle les Moraves. Donc c'est un groupe qui vraiment cherchait Dieu, vraiment de la simplicité. Il n'y avait pas vraiment de structure chez eux, mais ils vivaient vraiment par l'Esprit de Dieu. Et il a été touché de voir ces hommes et ces femmes qui vivaient dans une réelle paix, qu'ils étaient dans la joie, que malgré qu'ils avaient peu de choses, ils s'entraidaient, ils s'encourageaient et continuaient de marcher avec le Seigneur. Et donc l'orateur disait qu'un soir, il a été invité à participer à une rencontre avec eux, et c'était vraiment à contre-courant qu'il a été, dans le sens qu'il ne sentait pas vraiment à l'aise d'aller là-bas, mais il a été, et cette soirée-là, il a réellement compris, à travers aussi l'Épître aux Romains, comment que il avait besoin de vivre cette grâce de Dieu et de laisser l'Esprit de Dieu agir. Ce que John Wesley faisait, c'est qu'il essayait par lui-même d'être juste, d'être saint, un peu comme un certain légalisme. Et là, il a compris qu'il avait besoin que le Saint-Esprit travaille beaucoup plus en lui, de lui donner cette liberté en lui pour qu'il puisse vraiment faire selon la volonté de Dieu. Et on sait comment que ça a changé. Par la suite, il a commencé à prêcher cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Comment qu'avec le Saint-Esprit en nous, on avait cette puissance pour changer les gens. Et on sait comment que le réveil s'est passé à travers l'Angleterre, a été dans d'autres pays en Europe, même ici jusqu'aux États-Unis. Un autre soir, on a entendu aussi une des responsables du cours Alpha. Je ne sais pas si vous connaissez le cours Alpha. On a déjà fait ce cours dans le passé dans l'Église. Un cours Alpha qui vient donc de l'Angleterre, aussi de l'Église anglicane, qui est un cours pour l'évangélisation à travers une approche très... très amical, partage un repas, puis après on regarde une vidéo, ou bien on écoute un témoignage, et ensuite on partage un petit groupe. Et au Canada, ils ont commencé à travailler parmi les jeunes dans les collèges, dans les universités. Ils ont même encouragé les églises à parrainer un collège pour prier pour ces jeunes. Et ils ont vu comment que Dieu a commencé à faire une œuvre nouvelle parmi ces jeunes. Comment qu'ils recevaient des téléphones, dire « J'ai entendu parler du cours, j'aimerais commencer, je ne sais pas comment le faire. » Et puis, ils les accompagnaient et ça a eu des impacts. Il nous a partagé plusieurs témoignages, comment que des jeunes de 18-20 ans venaient au Seigneur, même s'ils n'avaient jamais entendu parler de Dieu. D'autres soirées, on a vu comment que, justement, lorsqu'on vit dans cette sainte liberté, dans l'Esprit de Dieu, Dieu est en train d'agir. Dieu travaille à travers le Saint-Esprit en nous. Et voilà pourquoi on a besoin de laisser plus de place pour le Saint-Esprit. Et dans ces prochains temps, on va regarder un peu quel est le rôle du Saint-Esprit. Parce que souvent, on a l'impression qu'on dit pour beaucoup que le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est vrai que c'est une puissance, mais c'est plus qu'une puissance. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ en nous. Et le Saint-Esprit a besoin de travailler pleinement en nous. Rappelez-vous, il y a quelques temps, il y a 2-3 semaines, je vous avais parlé justement qu'à un moment donné, quand je lisais un document sur le Saint-Esprit, que j'avais été touché sur 3 façons comment qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Donc, on va juste revoir les trois points. Le premier point, c'était attrister l'Esprit, Et on avait vu dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Lorsqu'on lit ce verset, on peut voir que ça nous touche, parce que généralement, on est des humains qui font, hein? N'attristez pas le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous et on a besoin de marcher selon lui. Et voilà pourquoi que toute amertume, toute colère, toute tension, division entre nous ne reflète pas le Saint-Esprit. Alors, est-ce que dans nos familles, avec les personnes de l'Église, avec au travail, avec nos connaissances, souvent nous pouvons attrister aussi le Saint-Esprit à cause de nos agissements, à cause de nos paroles. Le deuxième point que nous avons vu, c'était éteindre l'esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, qui dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. » Donc là, il ne parle pas simplement d'enlever le mal en nous, mais il dit « Ne méprisez pas les prophéties. » Quelles sont les prophéties? Ce sont justement des paroles de Dieu qui ont été transmises à travers une personne. Des prophéties, il y en a à travers toute la parole de Dieu, principalement dans l'Ancien Testament, où Dieu va avertir le peuple des conséquences du péché, de ce qu'ils font de mal, va aussi avertir des bonnes choses, des bénédictions, des grâces que Dieu veut donner. Et ces prophéties, nous devons les prendre pour nous. Ne les mépriser, ça veut dire qu'on les laisse de côté. Ça veut dire qu'on les lit, mais elles ne nous touchent pas, elles ne changent pas notre vie. Mais si elles ont été transmises par le Saint-Esprit à une personne pour donner un message, nous devons faire aussi cas de ces prophéties, afin aussi de se conformer. Même si peut-être ces prophéties ont été données au peuple d'Israël ou à d'autres personnes, il y a des centaines, des milliers d'années, ces prophéties restent pour nous avertir aussi de ce qu'on doit faire, de comment se diriger, comment vivre dans la volonté de Dieu. Le troisième point que nous avons vu, c'était résister à l'esprit. Là, ça va encore plus loin. À force d'attrister l'esprit, à force justement de ne pas l'écouter, on résiste à l'esprit. On sait que l'Esprit de Dieu, lorsqu'on s'est converti, il est venu. Jésus est venu en nous à travers son esprit. Mais si nous ne prenons pas le temps de l'écouter, si nous faisons toujours à notre manière, alors l'Esprit de Dieu va comme se retirer, va rester là en arrière, mais il ne pourra pas agir en nous. Mais ce troisième point, résister à l'Esprit, ça m'a vraiment touché, surtout le texte de Ésaïe 63, 10. Cependant, ils se sont révoltés, ils ont attristé son Esprit Saint. Donc c'est dans l'Ancien Testament qu'il parle encore de l'Esprit Saint. De sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemi, il a lui-même combattu contre eux. Donc là, on voit que le Saint-Esprit a été comme retiré de les personnes. Mais parce qu'ils ont tellement résisté que le Saint-Esprit s'est transformé en ennemi contre eux. Donc il combat ceux qui devraient normalement aider. Ce texte est dans l'Ancien Testament, mais encore vrai aujourd'hui, parce que l'Esprit de Dieu, nous l'avons en nous. Donc c'est possible que si à force de résister au Saint-Esprit, qu'il nous combatte contre nous, ça veut dire qu'il va nous laisser aller dans la perdition, qu'il va nous laisser aller dans le mal, dans les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Alors nous avions vu, est-ce que c'est possible qu'on résiste à l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est possible que son œuvre ne peut pas se faire en nous? Et c'est ça que j'ai réalisé peut-être au début de cette année, à travers aussi ce temps de cette semaine de jeûne et de prière nationale, qu'on a besoin de libérer l'esprit, cette sainte liberté dans le Seigneur, d'être capable de être renouvelé dans notre tête, dans notre corps, dans notre façon de voir l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions vraiment travailler avec lui. Alors, ce matin, regardons juste quelques points, justement. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit en nous? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous et autour de nous? Le premier point, c'est afin d'être rendu plus efficace dans notre témoignage et notre ministère. On le connaît très bien ce texte, on le prend souvent, Actes chapitre 1, verset 8, qui dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, sous le pouvoir de l'ancienne alliance, Israël n'avait pas réussi à avoir un grand impact missionnaire. Cependant, on voit que dans les Actes, les apôtres, les disciples relatent des histoires de témoignages puissants et efficaces. Rappelez-vous qu'en une seule journée, le jour de la Pentecôte, plus de 3000 personnes se sont converties. Actes chapitre 4, verset 33. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Je me pose là toujours la question, ces récits, ces témoignages qu'on entend de ses disciples, de Paul, de tout ce qu'il a fait, c'est vrai que c'est une grande époque du début de l'Église. Mais pourquoi qu'on ne pourrait pas le vivre aussi pour nous aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas possible d'avoir cette effusion de l'Esprit-Saint pour avoir 2000, 3000, 4000 personnes qui se convertissent, qui changent, qui renouvellent leur engagement pour le Seigneur? Et je crois qu'on a besoin justement, on a besoin de continuer de prier pour que justement cette liberté dans le Seigneur puisse agir, pour que nous puissions voir que Dieu veut encore transformer ce monde autour de nous. L'autre point que nous voyons, c'est afin de vivre de manière désintéressée pour les autres. Donc lorsque Pierre a prêché à la Pentecôte, il a dit que tous ceux qui se repentiraient seraient baptisés, recevraient deux choses, le pardon des péchés et le don de l'Esprit-Saint. Donc le baptême, la plénitude. 3000 personnes, comme on a dit, ont cru et ont été baptisées et remplies de l'Esprit-Saint. Bien qu'il n'y avait aucune preuve qu'ils aient parlé en langue, Luc justement va décrire rapidement le changement radical de comportement. Et on le voit dans Actes chapitre 2, verset 42-47. Mais regardons, ouvrons notre Bible, encore dans Actes chapitre 4, verset 33-35, pour voir comment que l'Esprit de Dieu travaillait avec puissance, travaillait vraiment au fond des cœurs avec les apôtres, avec les disciples. Actes chapitre 4, verset 33-35. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Dans ce texte, il est parlé que les apôtres rendraient témoignage de la résurrection de Jésus. À cause de ce témoignage, à cause de ces vies changées, transformées, ça avait un impact sur leur façon de se conduire, leur façon d'être avec les autres. Et voilà pourquoi il dit « une grande grâce reposait sur eux tous ». Une grande grâce, ça veut dire que les gens reconnaissaient dans les apôtres qu'il y avait quelque chose, il y avait quelque chose qu'ils avaient, qu'eux n'avaient pas. Quelque chose qui les rendait beaucoup plus forts, plus puissants, plus joyeux, plus dans la paix, non pas à cause de leurs propres arguments ou leur propre façon d'être, mais parce que Dieu était là à travers le Saint-Esprit. Mais le verset 34... Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Ce n'étaient pas tous des personnes, ce n'étaient pas tous des personnes riches. La plupart de ceux qui sont convertis venaient de l'extérieur de Jérusalem. Ils étaient venus justement à Jérusalem pour fêter la Pentecôte juive. Et c'est dans ce temps-là que le Saint-Esprit est descendu. Et ces personnes ont été tellement touchées qu'ils sont restés à Jérusalem parce qu'ils voulaient apprendre, comprendre mieux aussi c'était quoi ce chemin que les apôtres commençaient à leur décrire à travers Jésus-Christ. Ils avaient besoin de mieux comprendre, de mieux saisir. Mais il fallait qu'ils mangent, il fallait qu'ils soient hébergés. Alors les gens autour d'eux, ils étaient tellement touchés par la grâce de Dieu, tellement touchés par le Saint-Esprit, qu'ils ont été prêts à dire, mais on va vendre notre maison, on va vendre du terrain pour qu'on puisse avoir de l'argent pour pouvoir donner la nourriture à toutes ces personnes. Aucun nécessité parmi eux. Lorsqu'on lit ce verset aujourd'hui, est-ce que c'est possible qu'il y ait des nécessiteux, est-ce qu'il y a des pauvres dans nos églises et qu'on va dire ben, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse? mais qu'on ne va pas le soutenir, qu'on ne va peut-être même pas lui donner un petit quelque chose. Cette générosité, c'était le fruit justement de l'Esprit de Dieu en eux. Nous avons parlé au début de l'année comment que la situation aussi financière de l'Église a été difficile à la fin de l'année aussi. Par la grâce de Dieu, à travers aussi le don, le geste d'amour, nous avons pu peut-être payer aussi, c'est vrai, certaines factures qui devaient être payées depuis un certain temps. Mais c'est ce que je crois et ce que je dis, cette générosité de pouvoir donner pour le Seigneur à travers l'Église, ce n'est pas pour pouvoir avoir plus d'argent. Mais lorsqu'on est dans le Seigneur, lorsqu'on vit quelque chose de merveilleux que le Seigneur, on va donner généreusement pour le Seigneur, que ce soit à travers l'Église, à travers la mission, à travers d'autres personnes qui sont dans le besoin. Même si on ne va pas commencer à calculer et dire « est-ce que je vais avoir assez ?»« Où est-ce que je vais pouvoir finir ?» Ces personnes ont donné d'une façon très libérale et Dieu a exaucé. Et jour après jour, des hommes et des femmes se convertissaient parce qu'ils voyaient, que ces hommes et ces femmes mettaient vraiment en pratique ce qu'ils avaient entendu à travers la bouche des apôtres. Un autre point que nous voyons, c'est afin de connaître la victoire sur Satan et les forces démoniaques. Ils ont reçu justement une armure divine qu'on voit dans Éphésiens 6 hein, pour contrer les attaques de l'ennemi. Ils ont reçu des armes spirituelles pour lutter. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4 dit « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser les forteresses. » Paul, par exemple, était tellement habilité à faire des miracles et à chasser les démons que même les mouchoirs qu'il avait touchés suffisaient non seulement pour guérir les malades, mais aussi à chasser les démons. On peut voir ça dans Actes 19, verset 12. Tellement que l'onction de Dieu était sur Paul. L'armure, la grâce et les armes étaient et servaient toutes d'intermédiaires pour la puissance de l'Esprit Saint. On peut avoir encore cette puissance, on peut avoir encore cette onction du Seigneur. On a besoin d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une expérience une fois qu'on fait, puis après c'est terminé. Mais on a besoin jour après jour de continuer d'être renouvelé, rempli de l'Esprit de Dieu pour continuer d'agir selon lui. Et le dernier point qu'on va terminer avant de prendre le repas du Seigneur, c'est afin de grandir dans la sainteté ou la sanctification. Ça, c'était un thème central. En tant que méthodiste, John Wesley voyait les chrétiens. Les chrétiens allaient à l'église le dimanche et durant la semaine, ils continuaient leur travail, ils allaient dans les bars. On disait qu'en Angleterre, à Londres, une maison sur six était une maison de débauche. Donc, tout le monde allait à l'église le dimanche, mais durant la semaine, ils vivaient à leur façon. Et lorsque John Wesley et ses amis ont commencé à prêcher, il leur a montré l'importance de cette sainteté, l'importance d'être conforme selon la parole de Dieu, l'importance d'écouter, de lire les prophéties et de pouvoir aussi les mettre en pratique. Donc c'est l'Esprit Saint qui agit en nous pour nous changer, nous sanctifier, en nous donnant une plus grande sainteté de vie. C'est sur ce point justement que le mouvement de la sainteté, qui est né au 19e siècle, au 19e siècle, qui a fait aussi ensuite l'église de Pentecôte, a mis, après la conversion, l'expérience de l'Esprit-Saint, comme un homme d'être rempli de l'Esprit-Saint. Donc, nous, en tant que méthodistes, on ne croit pas forcément à cette conception de la perfection dans cette vie, dans le sens que pour certains, tu te convertis, puis après, il faut faire l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Nous croyons que lorsqu'on se convertit, lorsqu'on se repent, Dieu vient à travers son Esprit Saint. On n'a pas besoin d'avoir une touche spéciale ou quelque chose. Dieu vient en nous pour nous transformer. Mais on a besoin de vivre cette plénitude du Saint-Esprit. On a besoin de vivre des expériences avec lui. Certains, ça peut être par différentes façons. Ça peut être des expressions différentes. Certains, c'est juste dans le calme. Mais on a besoin que l'Esprit de Dieu continue de nous toucher, de nous façonner, de nous faire sanctifier pour sa seule gloire. L'Esprit Saint produit en nous le fruit d'esprit qu'on voit dans Galates chapitre 5, verset 22, c'est-à-dire les traits de caractère
qui font partie d'une sanctification de plus en plus grande. Donc, pour grandir dans cette sanctification, on doit marcher par l'Esprit. Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Galates chapitre 5, versets 16 et 17 qui dit « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. » Ce que ça signifie, c'est que nous devenons de plus en plus sensibles aux désirs, aux incitations de l'Esprit en nous. Lorsqu'on le laisse travailler, lorsqu'on laisse cette totale liberté en nous de travailler, d'aller dans les coins les plus sombres de notre vie pour aller éclairer, pour briller, pour laver, pour purifier. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous remplir, de répondre pour pouvoir nous donner une réelle vie en lui. Au lieu de simplement marcher par nos pulsions, nos désirs de la chair. Alors courbons notre tête et regardons comment que le Saint-Esprit travaille en nous. Nous allons prendre le repas du Seigneur qui est un rappel de ce que Jésus a fait. Il a dit, Jésus, quand à un moment donné vers la fin de sa vie, il vaut mieux que je vous quitte et je vais vous envoyer le Consolateur. Je vais vous envoyer la puissance de Dieu. Je vous ai envoyé mon esprit pour que vous puissiez continuer d'être là. Imaginez qu'avant, Jésus était avec peut-être 12 ou 100 personnes. Mais pour qu'il puisse être là avec tout le monde, il fallait que ce soit l'Esprit de Dieu qui vienne, son esprit en chacun de nous. Et c'est ce que nous expérimentons aujourd'hui. Voilà pourquoi qu'on a besoin de se rappeler ce que Jésus a fait sur cette terre, la mission. C'est d'aller jusqu'au bout pour nous donner la vie. Il nous donne la vie à travers le pardon de nos péchés. Il nous donne une vie qui est transformée avec lui. Mais il nous demande de continuer d'être saints en lui. De continuer, pas comme John Wesley essayait avec ses amis, d'essayer de le saint plus possible en faisant toutes sortes de choses, d'abstraction, de rigueur, de vigueur, de toutes sortes de façons. Mais de laisser l'Esprit de Dieu travailler réellement. Être capable encore d'être touché par lui. Alors simplement, ouvrons notre cœur encore ce matin et disons au Saint-Esprit, viens, viens encore travailler, viens encore briller en moi, viens encore me donner cette liberté, cette réelle liberté, pour que je puisse simplement faire ce que tu me demandes de faire. Je puisse simplement réaliser que j'ai encore besoin de toi. Qu'on s'adresse au Père, qu'on s'adresse à Jésus-Christ, qu'on s'adresse au Saint-Esprit, ils sont la même personne. Ils ont des rôles différents, mais c'est la même personne. Lorsqu'on prie le Père, on prie Jésus, on prie le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie le Saint-Esprit, on prie le Père, on prie Jésus-Christ, parce qu'ils sont les trois en nous. On a besoin de réaliser que l'Esprit de Dieu veut encore travailler, façonner, pour que l'Église puisse rayonner, pour que nos vies puissent vraiment vivre quelque chose avec lui. Alors je crois que la chorale a aussi un chant pour nous préparer dans ce temps de Sainte-Cène, pour réaliser encore cette grâce que nous avons aujourd'hui, de pouvoir s'approcher librement de cette table du Seigneur, de prendre ces éléments pour nous rappeler ce que Jésus a fait il y a plus de 2000 ans. Mais comment que cette grâce nous est encore offerte en 2026? Pour nous pardonner, pour nous donner une nouveauté de vie. Mais il veut encore, ce matin encore plus, il veut encore nous dire, reçois l'Esprit de Dieu en toi. Fais que l'Esprit de Dieu puisse vraiment travailler en profondeur. Laisse-moi nettoyer ton cœur, laisse-moi agir. Pour que tu puisses, comme ces premiers disciples à la Pentecôte, être capable de vivre cette générosité, être capable de cette grâce. On dit justement que les gens étaient émerveillés de voir tous ces chrétiens, comment ils agissaient, comment qu'ils se comportaient. C'est ce qu'on a besoin de voir. Le monde autour de nous va vraiment dans une situation catastrophique. Il y a des bouleversements. L'ordre mondial est en train de changer. Et là, on voit vraiment comment que l'ennemi travaille et comment qu'il veut détruire l'Église, comment qu'il veut nous éteindre dans notre passion pour le Seigneur. Et voilà pourquoi qu'en 2026, on va dire, Seigneur, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas simplement juste venir le dimanche matin au culte, louer ton nom, vivre un bon temps avec mes frères et sœurs et repartir et que ça ne change pas ma vie, ça ne transforme pas ma vie et celle de mes voisins, celle de ma famille, celle de mes collègues. Nous sommes appelés à ce que l'Esprit Saint en nous fasse son œuvre complète afin de pouvoir produire du fruit de l'Esprit. Et lorsque ces fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit sera vraiment grand, progressera, alors le monde verra que le Saint-Esprit est en nous. Alors le monde verra que Dieu est Dieu, le Dieu créateur. Alors simplement, prenons ce chant pour nous préparer à réaliser que Jésus-Christ vient encore ce matin pour nous offrir sa vie à travers son sacrifice. Mais que maintenant il est en nous et il désire que nous puissions continuer de vivre dans cette sainteté, continuer de vivre dans cette liberté pour lui seul. Alors nous sommes invités à venir devant cette table comme un rappel de ce que Jésus a fait pour nous. Alors écoutons cette invitation. Si vous vous repentez sérieusement et sincèrement de vos péchés, si vous vivez dans l'amour et dans la paix avec votre prochain, si vous menez une nouvelle vie en suivant les commandements de Dieu, si vous marchez dans ses saintes voies, si vous vous approchez de lui par la foi, si vous prenez ce Saint-Sacrement pour votre consolation, adressez dans une humble prosternation cette confession honnête au Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Père notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur de toutes choses, Juge de tous les humains, nous confessons que nous avons péché et que nous sommes profondément attristés en pensant à toutes les choses mauvaises de nos vies passées. Nous avons péché contre toi, ô Dieu Saint, et contre ton amour. Nous ne méritons que ton indignation et ta colère. Nous nous repentons et nous regrettons profondément d'avoir mal agi, de ne pas avoir accompli les actes que nous aurions dû faire. Nos cœurs sont contrits et nous reconnaissons que nous sommes désespérés sans ta grâce. Accorde-nous ta clémence, Père miséricordieux. Pardonne-nous par égard pour ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Pardonne-nous et purifie-nous. Donne-nous la force de te servir et te plaire en nouveauté de vie, en t'honorant et en louant ton nom, grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors continuons dans cette prière que le Seigneur nous a enseignée. On peut tous le faire à haute voix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant qui connaît nos cœurs et nos désirs, pour qui aucun secret n'est caché, purifie les pensées de nos cœurs par l'inspiration du Saint-Esprit, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et magnifier dignement ton Saint-Nom par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, par amour, tu nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ pour souffrir la mort à la croix pour notre achat. Ton Fils qui, par son sacrifice, s'est offert une fois pour toutes, a accompli une expiation suffisante, parfaite et totale pour les péchés du monde entier. Nous venons maintenant à ta table par obéissance à ton Fils, Jésus-Christ, qui dans ton saint évangile nous ordonne à commémorer de façon perpétuelle sa mort précieuse jusqu'à son retour. Alors nous sommes simplement invités à venir devant comme un acte que nous voulons marcher par l'Esprit de Dieu d'une façon conforme dans sa sainteté, dans sa véritable liberté, en se rappelant ce que Jésus-Christ est venu accomplir à travers la croix. Donc, on peut venir par l'allée centrale, prenez les éléments et on retourne à notre chaise et ensuite on va les prendre tous ensemble. Et pendant ce temps-là, on reprend une fois ce chant pour nous rappeler ce que Jésus est venu faire. Quand nous demandons humblement de nous accorder en prenant ce pain et cette coupe, comme il a ordonné en mémoire de sa passion et de sa mort, de participer à son sang et à son corps très saint. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit en donnant à ses disciples en disant, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Seigneur, on te remercie de cette occasion que nous avons eue de pouvoir tous ensemble prendre encore ce repas, ces éléments pour nous rappeler ce que tu as fait sur la croix. Tu veux encore, Seigneur, apporter ton pardon, ta grâce encore aujourd'hui à chacun de nous. Tu désires que ton esprit continue de travailler en nous pour nous purifier, pour nous laver, pour nous rendre encore plus saints. Non pas par nos propres efforts, mais uniquement par ton amour et ta grande grâce. Nous reconnaissons que souvent, Seigneur, nous voulons essayer de faire par nous-mêmes. Et Seigneur, on veut encore ce matin se rappeler que tu as tout fait pour nous. Que ce sacrifice est complet et total. Et qu'il est encore vrai pour chacun de nous et pour le monde entier. Permets que ce sang encore continue de nous donner la vie, nous donner l'espoir d'une vie meilleure en toi. Saint-Esprit, continue de travailler, de briller en nous, pour que le nom du Seigneur Jésus soit proclamé dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos actions, dans notre témoignage jour après jour. Que ton Église professe ta lumière. Apporte encore cet amour, cette grâce que tu as été jusqu'au bout sur la croix pour nous. Oui, Seigneur, nous voulons goûter à cette Pentecôte. Nous voulons goûter à être remplis jour après jour de ton esprit pour pouvoir vivre comme ces premiers chrétiens et de voir comment qu'ils sont touchés avec toi. Nous te remercions et te louons, Seigneur Jésus, parce qu'en toi, nous avons la vie. Merci. Merci pour ce rappel si grand, si important qu'on a besoin avec toi. Saint-Esprit, continue ton œuvre en chacun de nous. Saint-Esprit, continue, Seigneur, te révéler, Seigneur, pour que nous puissions vraiment marcher par l'Esprit avec toi pour ta seule gloire. Nous te remercions et te louons parce que c'est toi. C'est toi qui es la vie, c'est toi l'espoir, c'est toi la lumière du monde. Et nous voulons continuer de le proclamer haut et fort en tant que chrétien, en tant que frère et sœur et en tant qu'Église, Seigneur Jésus. Nous te remercions, te louons, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Et maintenant que nous allons bientôt nous quitter, Seigneur, on veut encore que cette grâce, cette paix, cette sainte liberté en toi continue d'être avec nous jusqu'à ce que tu reviennes et qu'on soit tes témoins. Comme nous l'avons lu à Jérusalem, dans toute la Samarie, qu'on soit des témoins là où tu nous places. Et que ton esprit continue de travailler en chacun de nous. Nous te remercions, te louons. Merci pour tout. Amen.
Amen.
Amen. Soyez bénis, que le nom du Seigneur soit sur vous, sur vos familles. On vous souhaite un bon dimanche et continuons d'être remplis jour après jour de l'Esprit de Dieu pour agir dans cette sainteté avec le Seigneur.